Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous. Bah, il ne fait pas beau, mais nous, on va vous apporter tout plein de cœur, tout plein de chaleur dans cette émission. On est ravis ce soir d'accueillir donc la présidente de la section PUC du judo, Véronique Rousseau. Véronique, bonsoir.
Bonsoir.
Merci pour votre présence. Hein. En plus, vous êtes nutritionniste, diététicienne, et puis alors vous allez avoir une chance énorme. Vous allez être une des relayeuses sur Paris pour la prochaine femme olympique. Hein.
Exactement, ouais, c'était vraiment une très belle surprise, donc finalement je suis contente de représenter aussi le Paris Université Club dans ce challenge. Mmh. Et donc c'est un vrai symbole aussi de porter cette flamme olympique hein, qui va peser 1,5 kg.
Oh là, quel privilège. Quel privilège.
Et donc oui c'est un vrai privilège. Mmh. et à la fois c'est à tout son sens parce que ça retrace un peu aussi mon parcours parce que effectivement j'étais athlète de haut niveau. Mmh. Ensuite j'étais au service, je suis toujours restée au service des athlètes et des entraîneurs au niveau de la particularité de la nutrition du sportif.
Et
je le suis encore.
Dieu sait si c'est hyper important.
Voilà, c'est ouais. un des éléments de la performance. Ça ne fait pas la performance, oui. parce ouais. que c'est l'entraînement. Mmh. Mais ça permet au moins d'optimiser les phases d'entraînement, la récupération. Mmh. Donc, c'est un élément de la performance qui est important. Et donc, finalement, je me suis engagée aussi... au niveau du Paris Université Club depuis de nombreuses années, depuis des années après ma carrière, dans les années, vers 1994, où j'ai commencé un petit peu à enseigner, à transmettre un petit peu ma passion du judo sur quelques petits créneaux. Et puis finalement, j'ai passé différentes étapes sans avoir une envie particulière, une volonté de devenir présidente de la section judo.
C'est par hasard, mais c'est par accident.
C'est pas tout à fait par accident.
Porté par les événements.
Voilà, porté par, ouais. Par Pierre Guichard, qui était au comité olympique, porté par Paulette Fouillé, qui était entraîneur national, qui faisait partie aussi, qui était une des dirigeantes du Paris Université Club, porté par Brigitte Dédier, qui est aussi vice-présidente du Paris Université Club.
Qu'on a eu le croisement de croisée il y a fort longtemps. Voilà.
Ouais. Donc finalement, et puis contente aussi d'amener de l'enthousiasme auprès de nous, de nos jeunes pucistes, et parce que ça a une vraie valeur aussi. Donc peut-être, comme nous au PUC, on a aussi des jeunes sportifs qui sont inscrits dans un sport-études. Donc je pense que voilà, ça peut... Ça peut les dynamiser, en tout cas ça amène de l'enthousiasme et puis c'est un peu pour eux aussi que...
Ben c'est très bien, on va avoir beaucoup de choses à raconter ce soir. Je vais saluer celle qui a encore fêté son anniversaire la semaine dernière, c'est Vanessa. Ça va Vanessa, pleine forme ?
Ça va très bien.
T'as passé une belle semaine ?
Oui, très bien, hein, super semaine.
Ouais, très bien. Et puis on aura aussi la partie foot à partir de 20h05, 20h10 avec notre ami Stéphane Dezenclos. Ce que je vous propose, c'est de prolonger un tout petit peu nos reportages sur les médailles olympiques qu'on avait fait la semaine dernière. Il y avait eu le dévoilement donc, des médailles olympiques au CH de Paris 2024. Donc, on vous a diffusé toutes les interviews. Et dans la même semaine, il y a eu l'inauguration de l'Adidas Arena, porte de la chapelle. Alors, en configuration basket, 8000 personnes, 9000 s'il y aura des concerts et d'autres configurations. Juste avant d'envoyer les interviews, je voulais simplement vous demander tous ces événements, tous ces équipements sportifs, c'était nécessaire sur Paris ?
Oui, je pense qu'il y a encore aussi besoin d'autres équipements sportifs, notamment pour accueillir tous les jeunes parisiens qui souhaitent pratiquer. Nous, au club, on souffre aussi d'un manque de disponibilité de créneaux sur les différents gymnases. Donc, il y a aussi un projet de rénovation au niveau de Charletti, par exemple, pour surélever un des terrains et pour proposer en fait aux Parisiens éventuellement, en tout cas ça fait partie de nos rêves, ça fait partie aussi des actions qui sont menées par un groupe de PUCistes, de dirigeants, dont notre président du PUC est Bernard Commin, qui a énormément d'enthousiasme et d'énergie pour essayer, enfin porter ce projet et tenter une réalisation.
Alors on va écouter donc Anne Hidalgo ainsi que le maire du 18e, Éric Lejoindre, et puis bah, celui qu'on croise régulièrement aussi, hein, Pierre Abadan, le maire adjoint chargé des sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques sur Paris pour 2024. Et vous allez voir que dans cette longue interview de Anne Hidalgo, la maire de Paris est contente d'avoir, j'allais dire, pu mener ce projet à bon terme et dans les temps.
De cette arena Adidas à la porte de la chapelle. On vient de le dire avec tous les acteurs de ce projet. D'abord, c'est une arena, c'est-à-dire un espace pour le sport de haut niveau, parce qu'on a la chance d'accueillir, bien sûr, une équipe Paris Basket sur laquelle nous misons, sur laquelle nous sommes très, très heureux d'être présents quant à son essor, son évolution dans Paris, mais aussi des salles de sport pour ce quartier. Ce qui nous a importé vraiment, c'est la vie du quartier. Mais je veux remercier aussi Adidas, qui est notre partenaire sur cette salle, qui a permis aussi d'avoir ce beau projet qui va pouvoir non seulement rayonner pour l'équipe de haut niveau, mais aussi pour tout le quartier. Ce qui nous importait, c'était le quartier. C'était transformer la porte de la chapelle et faire se rejoindre les ambitions, celles des Jeux Olympiques et Paralympiques et celles, bien sûr, de la transformation de ce quartier. Et Éric Lejoindre en parlera beaucoup mieux que moi. Cette aréna, finalement, c'est le signal réel, physique, très beau, hein, entièrement avec des matériaux biosourcés, avec des sièges par exemple qui sont fabriqués en plastique recyclé, etc., etc., avec une accessibilité exceptionnelle pour laquelle nous avons d'ailleurs reçu un label spécifique AA, et j'en suis très fière. Mais cette salle, c'est ce signal de confiance. Une confiance qui ne nous a, nous, jamais lâchés, parce que ça fait 20 ans, 10 ans que nous sommes maires tous les deux depuis 2014 et que nous avons dit aux habitants de la Porte de la Chapelle, envers et contre tout, souvenez, on parlait de ce quartier comme d'une no-go zone. Ça nous avait amené d'ailleurs à réagir assez violemment parce que tout ça n'était pas non plus très juste vis-à-vis des habitants. Mais nous nous sommes engagés à faire changer les choses et aujourd'hui, nous avons la démonstration que le changement est possible quand on investit publiquement, quand on rénove l'espace public, quand on part aussi de ce que les habitants souhaitent. Et moi, je suis très fière que, notamment sur ces 10 dernières années, qui sont aussi les années qui ont coïncidé avec notre engagement pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, finalement, puisse faire cette belle démonstration ici dans le nord-est parisien. Mais je voudrais qu'il vous dise quelques mots parce que Eric est quand même aussi l'homme de ce projet.
Merci pour le téléphone en plein milieu. Avec le...
Bonjour à tous. Donc Eric Lejoindre, je suis le maire du 18e et après Anne Hidalgo, je voulais vous dire ma joie et ma fierté aussi qu'on puisse inaugurer cette aréna, mais surtout qu'on puisse avoir fait de la Porte de la Chapelle une des plus belles entrées dans Paris. L'ambition urbaine qu'on portait avec Anne, qu'on porte d'ailleurs depuis 20 ans ici dans le 18e, c'était d'abord de retourner le quartier de la Porte de la Chapelle vers ses habitants. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensaient, il y a du monde qui habite à la Porte de la Chapelle et il fallait qu'ils puissent profiter de leur quartier. Et on voulait aussi qu'il y ait une bonne raison de venir à la Porte de la Chapelle. Pas seulement de la traverser, mais d'y venir. Et pour remplir ces deux objectifs, on a bien sûr l'aréna qu'on livre aujourd'hui, qui va permettre plusieurs centaines de jours par an que 8000 personnes viennent ici à la Porte de la Chapelle pour une bonne raison. Et puis il y aura à la rentrée de septembre 25, l'université qui va s'ouvrir juste en face. Et donc l'engagement qu'on avait pris, qui était de dire que non seulement la Porte de la Chapelle devait être la plus belle entrée dans Paris, mais devait être un quartier de Paris, un quartier parisien, il est réalisé, c'est une immense fierté. Et au fond, cette aréna, c'est non seulement l'Adidas Arena, et ça compte beaucoup, mais pour moi, c'est d'abord l'aréna des promesses tenues. Et quand on est engagé dans ce quartier depuis aussi longtemps que moi, et bien ça compte.
Vous avez dit changer la vie des gens, comment ça va changer la vie des gens? Porte de la Chapelle ?
Ah bah, ça a déjà commencé à changer la vie des gens. Si on se projette, ne serait-ce qu'il y a 4-5 ans, certains d'entre nous y étaient, beaucoup ont la mémoire, on sait ce qu'était ce quartier de la Porte de la Chapelle, et il suffit en fait de se promener un tout petit peu pour pouvoir voir à quel point ça a changé. Évidemment, l'aspect le plus exceptionnel sera quand les travaux de voirie sont finis et qu'on aura cette magnifique entrée, qu'on pourra la fermer à la circulation pour l'inauguration et qu'on pourra revivre, y compris dans l'espace public. Mais déjà aujourd'hui,
en juin prochain.
Mais déjà aujourd'hui, et les habitants, si vous allez les voir, ils vous le disent, le quartier est d'abord plus sûr, il est plus beau. On a un beau geste architectural qui donne de la confiance dans ce quartier et qui montre l'attention qu'on y porte. Et surtout, on se rend compte que maintenant, il y a des gens qui nous disent « t'habites à la Porte de la Chapelle ». Avant, les gens disaient souvent « oh, t'habites à la Porte de la Chapelle ». Et maintenant, on commence à entendre « waouh, t'habites à la Porte de la Chapelle ». Ça, c'est assez exceptionnel quand même.
Pierre.
Oui, le Paris Basket a des ambitions sportives. Le projet est arrivé il y a quelques années maintenant à Carpentier, où on a trouvé une place pour le Paris Basket. Ils ont su créer une vraie identité et des résultats sportifs qui ont suivi, puisqu'ils sont montés de Pro B en Pro A. Aujourd'hui, c'est un club qui compte déjà dans l'écosystème du basket français, mais ils ont d'autres ambitions et ils avaient besoin de cet outil dont Paris avait besoin aussi. On n'avait pas de salle de cette jauge de 8000 places et une salle, comme l'a dit la maire, d'une très grande qualité architecturale, mais aussi environnementale. Donc voilà, c'est une petite merveille locale qu'on a réussi à construire en 2 ans et demi, ce qui est aussi un record pour à la fois la salle de l'aréna et les deux gymnases de proximité qui y sont associés. Donc oui, ça va être un outil évidemment majeur pour le développement du Paris Basket. Après, vous me posez la question de l'Euroleague, posez-leur la question, peut-être. Je leur souhaite, si c'est ça qu'ils veulent faire en termes de développement. En tout cas, vous savez, le basket progresse beaucoup à Paris. On y a beaucoup investi par le Paris Basket, mais aussi par bien d'autres actions, des rénovations d'équipements, un meilleur entretien aussi de ces terrains-là. On a plus 30% de licenciés en 3 ans au basket à Paris. Donc voilà, on est dans cette dynamique-là, on l'a accompagné et on est très heureux qu'ils puissent jouer leur premier match ce soir.
Quand on parle de changement de quartier, ça veut aussi un changement de profil souvent. Comment payer à ce que les habitants ne soient pas déplacés? Parce qu'il y a quand même une partie des logements qui sont en loyer libre.
Alors d'abord parce que dans les nouveaux quartiers qu'on pense, on les pense avec la possibilité de faire en sorte que les habitants continuent d'habiter, mais aussi qu'il y ait des habitants différents qui viennent. Il n'y a aucun logement qui a été détruit pour faire l'aréna, aucun des équipements qu'on fait. Donc tous ceux qui habitent ici continuent d'habiter ici et on sera attentif, notamment en matière de commerce, à faire en sorte que le commerce à destination des habitants du quartier puisse rester, tout en accueillant aussi bien sûr des commerces à destination des visiteurs. Mais l'ensemble de la politique qu'on mène ici, c'est aussi de remettre un petit peu de densité, un petit peu d'habitants en plus, pour faire en sorte qu'il y ait plus de monde, que les commerces vivent mieux, que les écoles vivent mieux. Et on fait tout ça avec les habitants. On ne l'a pas dit en introduction, mais on a pensé non seulement l'aréna à la Porte de la Chapelle, mais on fait avec Paris Habitat la plus grande opération de rénovation d'une cité des années 30, la cité Charles-Hermite, qui va bénéficier énormément de cette rénovation. Donc on fait ça avec les habitants, on ne les remplace pas, on crée des logements en plus, on crée de la mixité. Et les habitants ici sont très fiers de voir leur quartier changer. Donc c'est vraiment quand c'est la puissance publique qui fait les transformations, quand on ne laisse pas le marché faire tout seul, mais quand on investit nous-mêmes avec la puissance publique, on arrive à faire non pas la gentrification, comme certains disent, mais la mixité, et c'est ça qu'on portait pour ce quartier.
Vous savez, on a investi plus de 10 milliards d'euros depuis 10 ans dans les transformations urbaines de Paris, pas uniquement dans ce quartier, mais sur le logement, sur les aménagements de voiries, sur la plantation d'arbres. Il y a ce quartier qui change, mais il y a beaucoup d'autres quartiers sur lesquels nous agissons aussi. Et pour nous, le maître mot, c'est quand même la mixité. Notre projet, c'est vraiment une ville mixte, maintenir de la mixité sociale à Paris. Vous savez que dans la politique de logement qu'on a conduite, qui ne chasse pas les habitants, qui au contraire leur donne des possibilités de rester avec des loyers moins chers. Nous avons 700 000 personnes sur les 2 100 000 Parisiens, 700 000 personnes qui restent et vivent à Paris parce qu'elles ont un loyer modéré. Donc ça, c'est notre politique, c'est vraiment de garder la population de classe moyenne et de catégorie populaire, et puis aussi de faire venir des populations nouvelles, par exemple dans ce quartier. L'enjeu, c'était aussi d'équilibrer avec des classes moyennes, ce que nous sommes aussi en train de faire.
Madame la maire, vous avez
utilisez une belle expression, il fallait que ce quartier ait un peu ses Champs-Élysées, sa tour Eiffel, son symbole. On peut revenir là-dessus parce que je trouvais l'expression très jolie.
Ah oui, c'est d'ailleurs, les gens nous ont pris un peu pour des fous quand on a, avec Eric, dit la porte de la chapelle, la rue de la porte de la chapelle, ça sera comme les Champs-Élysées, ça doit être très très beau. Certains n'y croyaient pas du tout. On s'est beaucoup fait moquer aussi sur ces expressions. Et en fait, aujourd'hui, moi, je suis tellement heureuse quand j'entends les habitants eux-mêmes le dire. Il y a quelques jours, sur une chaîne publique de radio, une habitante de la Porte de la Chapelle disait bah, « ça y est, on va avoir nos Champs-Élysées, nous aussi ». Ça m'a fait, je vous assure, une émotion le matin en me réveillant et en entendant ça sur, dans ma radio, qui est finalement qu'on est en train d'y arriver. On est en train d'arriver. Le beau pour toutes et tous. Et le beau avec, je dirais, le confort des logements, mais aussi le confort de l'espace public. Hein. Si vous vous souvenez, cette rue de la Chapelle, hein, c'était, il y avait deux stations-service, il y avait une contre-allée, je ne sais pas combien de voies de circulation. Et là, vous allez avoir des espaces plantés, verdis, où les gens vont pouvoir venir se promener, où on fera, et ça c'est une proposition du maire Éric Lejoindre, on fera comme sur les Champs-Élysées, des dimanches sans voiture, où les gens pourront venir se promener au milieu et profiter avec leurs enfants d'un espace apaisé. Cinq ans en arrière, beaucoup considéraient qu'on était fous et qu'on n'y arriverait pas. Comme quoi, il faut savoir s'accrocher, ne rien lâcher et surtout travailler dans l'intérêt collectif.
Voilà donc pour effectivement l'inauguration de cette Adidas à Arena. C'est bien comme ça que tous les quartiers de Paris soient valorisés.
Oui, bien sûr. Hein ouais, donc ouais, je pense qu'il faut et tout faire pour que les...
Effectivement, en plus c'était de le sortir dans les temps. Hein, et apparemment, donc on y est arrivé à la mairie de Paris. Alors il faut le savoir que ça sera quand même le basket qui jouera. Et ça a plutôt bien marché puisque le basket de Paris a le soir même gagné son match de championnat contre Saint-Quentin. 87-65. Et puis la semaine d'après, ils sont allés gagner la Leaders Cup. Mais cette fois-ci à Nanterre, 90-85. Alors on a ensuite visité les installations. Et puis Emmanuel Grégoire, qui est le maire adjoint chargé de l'urbanisme, de l'architecture et du Grand Paris, eh bien, a complété les interviews de Madame Hidalgo, toujours en compagnie de Pierre Abadan. Vous allez voir qu'on a aussi parlé du Paris Saint-Germain. Et donc, Emmanuel Grégoire nous a notamment évoqué et quelle était la particularité de ce nouvel équipement qu'est l'Adidas Arena.
Vous le savez, c'est le seul équipement pour les JO pérenne construit intramuros dans Paris. Il est dans un quartier particulier sur lequel je veux dire quelques mots. Hein. C'est un quartier qui fait l'objet d'un programme de transformation, de rénovation urbaine absolument majeur, sur lequel à peu près 500 millions d'euros sont investis sur une grosse dizaine d'années, dans lequel on mixe la ZAC Gare des Mines, le Chapelle Charbon et dans les deux phases qui ont été engagées, le quartier Chapelle International, plus de 60 millions d'euros pour la rénovation des espaces publics sur l'axe entre le rond-point de la Chapelle et la porte de la Chapelle, et puis évidemment cet équipement, 135 millions d'euros, et puis le campus Condorcet juste en face qui viendra donner une animation au quotidien. Et puis cet équipement, il a été conçu dans une vision d'exigence environnementale, de sobriété, de génération notamment d'énergie visant à limiter sa consommation. Mais je vais peut-être laisser Pierre détailler l'équipement.
Oui, ça va être un peu long, hein, n'en veuillez pas, mais il y a quelques éléments à porter à votre connaissance. D'abord, vous le voyez derrière, je crois que cette aréna, elle est réussie, elle est jolie. On dit que c'est la petite merveille du quartier, voilà. Le geste architectural est très beau, il s'insère très bien dans l'environnement dans lequel il est implanté, il contribue à la transformation qui était souhaitée sur la porte de la chapelle. Sur l'équipement lui-même, c'est une salle de 8000 places qui peut monter jusqu'à 9000 en configuration concert, qui est donc prévue pour des événements sportifs, bien sûr, pour être le lieu, la salle résidente du Paris Basket, et puis pour accueillir aussi toutes sortes d'événements culturels durant l'année. Il y a à peu près plus de 120 dates qui seront programmées à l'année. Mais c'est aussi deux gymnases de proximité qui ont été accolés, adossés à cette aréna, avec beaucoup d'innovations technologiques. Hein. Dans l'aréna, sur la construction autour, il y a une usine de froid géothermique sous l'aréna qui la rend indépendante en termes de chaleur thermique et qui même produit plus et sert le quartier en froid et en chaud également grâce à la géothermie. Donc voilà, il y a 6000 m² de toiture végétalisée, 1800 m² de panneaux photovoltaïques. Voilà, donc vraiment, c'est une démonstration de ce qu'on peut faire en 2 ans et demi sur les normes environnementales qui doivent être les nôtres dans la construction de demain. Et pour le sport, c'est évidemment un lieu et une jauge qu'on n'avait pas à Paris, dont on avait besoin. Et les Jeux ont vraiment servi d'accélérateur pour pouvoir construire une aréna dans un temps vraiment très, très restreint. Donc voilà, on salue vraiment encore l'ensemble des ouvriers qui ont travaillé à tenir les délais malgré des conditions parfois compliquées avec le Covid, la guerre en Ukraine, la crise de l'approvisionnement, des matières premières. Mais vraiment, on est extrêmement fiers et heureux du résultat. Je pense et j'espère que vous aurez aussi autant d'enthousiasme que nous pour découvrir à la fois l'espace qu'il y a derrière nous, mais tous les autres espaces. Et je finirai par là, il y a aussi ce qu'on appelle nous dans le jargon un programme de locaux complémentaires et des espaces extérieurs pour que ce soit un lieu de vie. On a voulu vraiment l'implanter dans la porte de la chapelle, non pas simplement pour que ce soit un lieu d'événement, mais vraiment pour que ce soit un lieu de vie. Donc là, il va y avoir des commerces qui vont ouvrir, il va y avoir des espaces dont la population doit s'approprier. On y travaille beaucoup aussi avec Adidas, hein, qui est le partenaire de cette salle et qui s'investit là-dedans. Donc ça va être un lieu évidemment de sport, mais pas que pour les événements, de sport au quotidien aussi. Et puis un lieu culturel, un lieu événementiel et un lieu de sport du quotidien et un lieu de vie du quartier. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a voulu mettre en place. Et franchement, le résultat est même quasiment au-delà de ce qu'on avait pu voir sur les maquettes. Bon, nous, on l'a vu progresser doucement, mais on est extrêmement heureux, enthousiastes et fiers du résultat.
Concrètement, ces deux gymnases, ils vont changer quoi pour les assos sportives, pour les jeunes dans les écoles ?
Ben, ils vont avoir une offre supplémentaire. Vous savez qu'à Paris, on a beaucoup, beaucoup de demandes par rapport à l'offre qui est la nôtre. Les Jeux nous ont permis cette création d'événements qui n'existaient pas, mais on a rénové et amélioré aussi d'autres équipements sportifs, hein, 7 de mémoire. Voilà, on est dans une politique depuis plusieurs années de rénovation à marche forcée, parce qu'en fait, nos équipements sont très utilisés, ils sont très demandés. Donc là, on a un gymnase supplémentaire. D'autres terrains de foot vont être remis en place aussi derrière l'aréna, là où il y a la base chantier actuellement. Donc pour retrouver une offre qui permette de répondre au mieux possible à la demande. Et voilà, ça va être un lieu de vie aussi pour les scolaires et évidemment les associations sportives du Nord parisien qui en ont bien besoin. Donc on est très heureux de pouvoir leur offrir cet environnement-là. Et puis vous les avez vus, les gymnases, ils ont des signatures architecturales spécifiques, ils ont des poutres en bois assez impressionnantes aussi. Donc voilà, on est très fiers et je pense que les Parisiennes et Parisiens le seront aussi en les utilisant.
Quel est le montant de financement d'Adidas ?
Adidas, leur contrat, il est de 2 millions par an, 2 millions 100 je crois. C'est le contrat de naming, mais comme je vous ai dit, ils ne viennent pas simplement en partenaire namer, ils viennent vraiment activer une zone en essayant de proposer des activités sportives à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Vous pouvez le voir en allant visiter les gymnases, là ils ont mis pas mal de choses en place. Ça va être plus compliqué pour le son.
D'accord,
là.
Donc c'est environ 2 millions par an, mais c'est
un peu plus. Ouais, c'est un peu plus de 2 millions d'euros par an, mais il y a aussi à l'intérieur de cette enveloppe près de 200 000 euros ouais, qui seront fléchés sur le financement des associations de proximité. On a souhaité à la fois créer un... On va chanter, on va se lâcher, on va boire un verre, et on va s'amuser. Voilà, ce partenariat avec Adidas, c'est un partenariat qui est important pour nous pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un ancrage territorial d'une marque qui a une forte notoriété, qui plaît beaucoup à la jeunesse. Et les gamins, ils sont fiers qu'à la porte de la chapelle, il y ait l'Adidas Arena. Demain, ils diront, j'habite où il y a l'Adidas Arena. Et évidemment, quand on connaît la longue histoire compliquée de la porte de la chapelle, c'est pour nous tous une fierté. Et ensuite, Adidas, en lien évidemment avec nous, avec la ville de Paris, avec les équipes qui vont gérer cette arena, on a demandé à ce qu'il y ait un ancrage territorial. Ça ne marchera que si les gamins, les associations de quartier ont le sentiment que ça leur est utile pour eux. Donc c'est de l'argent pour financer des projets des associations, que ce soit des associations sportives ou culturelles. C'est vraiment l'idée d'ancrer cet équipement dans son quartier, qu'il fasse la fierté de tout le quartier, qu'il puisse bénéficier au quartier à travers évidemment la vie quotidienne qui va s'y déployer, à travers les gymnases, notamment pour les scolaires et les associations sportives. C'est comme ça qu'on a conçu le projet, avec les équipes, avec la ville, avec les équipes d'Adidas. Et on pense que ça va bien marcher. C'est un équipement totalement inédit, y compris dans toutes les innovations qu'ils proposent. Ça va être une belle fête, ça va être une fête du sport, une fête de la culture et tout simplement une fête de la Porte de la Chapelle.
Je précise juste qu'ils n'ont pas contribué à la construction de l'arène.
Non,
non, non, c'est un contrat de naming et de partenariat.
Oui.
Et juste peut-être dire une dernière chose quand ça m'y fait penser. Je sais qu'on ne peut pas se rendre compte de ce que c'est que de construire un équipement comme ça en 2 ans et demi, c'est normal. Mais je peux vous dire à nous qui sommes depuis le début, qui avons suivi les ouvriers, les maîtres d'ouvrage, les architectes, et de voir la vitesse avec laquelle on a tenu les délais, franchement c'est assez incroyable ce qui est fait, et c'est vraiment un concentré de technologie. Je pense que vous l'aurez dans le dossier de presse, mais regardez, il y a vraiment beaucoup de choses qui, d'ailleurs il y a beaucoup de délégations qui viennent visiter pour essayer de comprendre ce qui a été fait. C'est vraiment une avancée dans les constructions d'équipements sportifs qui, j'espère, fera date pour la suite.
Tant qu'on est sur les équipements sportifs, je me permets, parce que vous en avez parlé ce matin.
La
transition est pas mal.
C'est dommage, on n'entend plus rien.
Non, juste, il y avait les banderoles hier. Comment on fait pour avancer avec le PSG par rapport au Parc des Princes?
Tu veux répondre?
Non, mais ce que nous souhaitons, c'est ne plus dialoguer avec le PSG par presse interposée. On a des choses à dire au PSG, on imagine que le PSG a des choses à nous dire. Donc on se voit, on travaille, mais on ne fait pas de commentaires par presse interposée. Et le reste, c'est de l'entre-deux. Donc ce qu'on veut, c'est se remettre au travail avec eux et pas faire du commentaire. Le PSG ne quittera jamais le Parc des Princes.
Voilà, c'est clair, précis. Le PSG ne quittera jamais le Parc des Princes. En tout cas, voilà pour donc ces interviews de Emmanuel Grégoire, Anne Hidalgo, Éric Lejoindre et puis Pierre Rabadan. Peut-être un jour, il y aura des compétitions de judo à la Chapelle Arena.
Peut-être, oui.
Hein, en tout cas, il y aura du badminton la semaine prochaine.
Exactement.
Vanessa.
Hein. Oui, les
tu
internationaux.
Tu peux nous en dire un petit peu?
Donc c'est les internationaux UNEX de badminton qui se dérouleront du 5 au 10 mars donc à la Adidas Arena.
Oui, et la semaine prochaine, on devrait en principe avoir donc le président de la Fédération française au téléphone. Et pour être très très complet sur cette Adidas Arena, naturellement, il va servir pour le Paris Basket, mais il va aussi servir pour les Jeux. Donc il y aura les épreuves de badminton, il y aura les épreuves de gymnastique rythmique olympique, et puis pour les paralympiques, eh bien, il y aura les para-badminton et puis les paras haltérophilie. Voilà. Allez, on va écouter un peu de musique. Donc, Michel Delpech chez Lorette. Et ensuite, promis juré, on va parler du PUC et on va parler du judo et de diététique sportive. Allez, on y va.
À sa façon de nous appeler ses gosses, on voyait bien qu'elle nous aimait beaucoup. C'était chez elle que notre argent de poche disparaissait dans les machines à sous. Après les cours, on allait boire un verre. Quand on entrait, Lorette souriait, et d'un seul coup, dans le son, nos problèmes disparaissait quand elle nous embrassait. C'était bien chez Lorette quand on faisait la fête. Elle venait vers nous, Lorette. C'était bien, c'était chouette quand on était fauchés. Encore afin qu'on soit tranquille, dans son café il y avait un coin pour nous. On s'y mettait pour voir passer les filles, et j'en connais qui nous plaisaient beaucoup. Si par hasard on avait l'âme en peine, Lorette seule savait nous consoler. Elle nous parlait et l'on riait quand même. En un clin d'œil, elle pouvait tout changer. C'était bien chez Lorette. On y retournera pour ne pas l'oublier, Lorette.
poète et on reparlera des histoires du passé chez Lorette. Ce sera bien, ce sera chouette et on reparlera des histoires du passé.
Voilà, le sport, c'est la joie. Donc, justement, on va rester dans la joie. Donc, votre carrière de haut niveau, elle vous a emmené à diriger aujourd'hui le PUC. On a quand même, vous avez vécu des moments fabuleux quand même en tant qu'athlète de haut niveau.
Oui, en fait, c'est vrai que...
C'est avec le recul du temps qu'on s'en aperçoit.
En fait, je pense qu'on n'a pas le même ressenti au fil des années. C'est-à-dire que donc moi, j'ai bien vécu en fait cette période à l'INSEP. Je suis restée pendant 10 ans. Je m'entraînais, je menais le double projet à la fois de performance et aussi d'études.
Et ça arrive comment le judo dans votre vie ?
Alors, c'est arrivé, c'est que mon père entraînait les équipes le mercredi et le samedi. Et nous, on prenait un peu de la place avec mon frère dans la voiture. Et comme il devait emmener son équipe de jeunes à quelques tournois ou à des matchs, ma mère a pris l'initiative de nous inscrire dans un club de judo, le seul club. Il y avait très peu de clubs à cette époque-là. Et dans un petit village à Écommoy, dans la Sarthe, en fait, à côté du Mans.
Ah oui, effectivement, oui.
Et ensuite, ils ont pris l'initiative, mes parents, en fait, d'acheter un ancien atelier de menuiserie. Et ils l'ont transformé en salle de judo. Ils ont acheté des tatamis, etc., avec des vestiaires, le chauffage, etc. Et on avait un professeur qui venait à la fois d'Angers et de La Flèche. Et le club était, c'était un des plus grands clubs en fait de la région à cette époque-là, parce que le maire n'était pas encore, enfin la mairie n'était pas encore réceptive en tout cas à créer un dojo. Et après ils ont défendu le projet du dojo dans la rénovation du village en créant une salle omnisport. En fait, il y a un dojo maintenant à part entière dans le village de Téloché. Donc, je pense qu'ils nous ont montré aussi l'exemple de l'engagement associatif.
Et c'est ça qui vous a aidé après, qui est resté dans votre carrière, quoi, dans votre vie, dans votre carrière, pour tout ce que vous faites, y compris aujourd'hui comme président du PUC.
Voilà. Ouais. Donc, en fait, je me suis entraînée. Après, je suis allée dans un sport-études expérimental à Angers. Et puis, j'ai fait un podium au championnat de France. Et puis, j'ai gagné un tournoi international. Et j'ai été sélectionnée pour rentrer à l'INSEP. Enfin, la fédération m'a proposé de mener le double projet.
Oui, en tout cas, c'est une belle vie, c'est une belle aventure. Il n'y a aucun regret.
Non, il n'y a aucun regret parce qu'on retient, en fait, on a des amitiés qui sont durables. C'est-à-dire que c'est ce qui reste, en fait, les bons souvenirs, les rencontres. Des rencontres internationales, des lieux, des endroits, mais aussi beaucoup de partage avec les uns et les autres. C'est-à-dire qu'on a vécu des moments parfois difficiles.
Oui, c'est pour ça que...
Et puis parfois heureux. Enfin, c'était à la fois aussi physiquement éprouvant, mentalement aussi, mais avec une belle solidarité. En tout cas, on a vraiment gardé, en tout cas moi j'ai gardé des relations d'amitié qui sont...
Et ça, c'est des valeurs qu'on retrouve dans la vie et qu'on retrouve à travers le judo.
Oui.
Justement, toutes ces valeurs inculquées justement à tous les jeunes qui débutent le sport, quoi.
Bien sûr. C'est-à-dire que c'est aussi c'est des moments aussi de dépassement de soi. Enfin, le sport, c'est à la fois un moyen d'éducation, c'est un moyen d'émancipation. Et puis, c'est aussi, ça permet de... de développer et puis de, si on veut s'orienter vers la compétition, d'être performant. Donc on n'a pas à chaque fois la réussite, hein, parce que moi j'ai arrêté en 93, j'étais remplaçante en 92 pour les Jeux Olympiques. Je n'ai pas réussi à décrocher en fait, ouais. Être titulaire à chaque fois. Il y avait qu'une seule participante par catégorie. J'ai eu aussi une malchance, je me suis blessée à un moment dans la carrière. J'étais inscrite dans le double projet en fait, motivée par mes parents qui certes voulaient bien que je pratique du judo, mais qui souhaitaient avant tout aussi que je me forme, en tout cas que j'ai un métier après cette période-là. Donc oui, ça a été d'excellents souvenirs, et notamment en fin de carrière, vers la fin de la carrière, j'ai eu cette chance en fait de faire partie de cette équipe européenne qui était basée à Paris, Place des Victoires. Le siège était à Paris, Place des Victoires.
Ah, c'est un symbole, donc, hein, Place des Victoires.
Voilà. Et ouais. Puis, on était sponsorisé par une société de vêtements de luxe japonaise, Miki House. Et on a évolué, en tout cas pendant 4 ou 5 années, en fait, on a pu défendre des couleurs de ce club qui ressemblait plus à du sport entreprise. Et ça nous a permis aussi de faire des échanges avec le Japon, les équipes japonaises de Miki House. Et de défendre nos couleurs et puis aussi de faire la promotion de la pratique du judo.
Oui, parce que c'est un sport individuel, mais il y a quand même cet esprit d'équipe, quoi.
Oui. Bah, ouais. Déjà,
c'est ce qui fait sa force d'ailleurs et son renouvellement.
La particularité du judo, c'est-à-dire qu'on ne peut pas progresser seul. C'est-à-dire déjà, pour progresser, il faut avoir un partenaire. Donc, un partenaire, ça ne suffit pas. Donc il faut avoir plusieurs partenaires pour avoir des oppositions un petit peu différentes. Donc c'est à la fois, certes, on est tout seul à affronter ou à combattre ou à se perfectionner, mais on le fait, on ne peut les faire qu'avec les autres.
Ouais, oui.
Donc c'est un sport d'équipe, oui.
Et comment vous expliquez tout le bon renouvellement qu'il y a chaque année dans le judo? Parce que c'est un sport qui est pourvoyeur de médailles. Hein. Je crois que c'est avec l'escrime le sport qui a le plus rapporté de médailles aux Jeux.
Oui, oui. Alors le règlement a changé. On a des athlètes qui sont physiquement
et qui sont
très
des icônes.
Affûtés, qui sont, voilà.
Hein, que ce soit à Riner ou à Benenou, c'est des icônes. Hein. Ouais.
Donc ils sont impressionnants, hein, à la fois sur le tapis et en dehors du tapis. Donc ce sont des belles exemples, en tout cas, pour tous les judokas, et en tout cas, ils portent bien, ils font bien la promotion en fait de la pratique du judo.
Et puis, on a le sentiment que c'est un sport où on emploie quand même la compétence des anciens. On ne les oublie pas, comme dans certains sports. Beaucoup continuent à avoir des activités diverses dans le judo.
Oui.
À travers
alors,
des fonctions d'entraîneur.
Oui, on essaie de préserver. Ça fait partie d'une des valeurs, valeurs en fait du code moral qui est. Alors la réalité est parfois un peu différente.
Ah bon? Ah bon?
On aimerait qu'il y ait le respect, etc. Des anciens. On aimerait que il y ait cet héritage, c'est-à-dire que ça soit toujours relayé par les instances fédérales, notamment l'histoire de chacun. Parce que c'est vrai qu'on a une fédération et on le doit aussi à ses anciens, c'est-à-dire qu'on ne doit pas oublier qu'on a mis tout en œuvre et qu'on a parfois consacré des vies, notamment pour le développement du judo. Donc parfois on l'oublie un peu et je trouve que c'est vrai que parfois il faut vraiment rappeler que nos anciens, ils ont fait énormément de choses, ils ont ouvert énormément de voies. Les jeunes, par exemple, ils pensent que tout est arrivé comme ça, tout est un peu normal, ça s'inscrit dans la normalité. Mais au départ, ce n'était pas aussi simple que ça. Et notamment, nous, pour les femmes qui ont commencé la pratique du judo, donc nous, les plus anciennes, eh bien, elles ont dû ouvrir certaines portes.
Oui.
Voilà, et qui,
Parce que vous parliez de Brigitte Dédier, si ma mémoire ne me fait pas défaut, je crois que c'était la première médaillée olympique.
Alors, il y a Jocelyne Triadou,
ah bon oui.
il y a Brigitte Dédier,
oui,
elle fait partie des premières, Paulette Fouillet. Elles font partie, en fait, d'une des premières équipes, notamment, qui ont participé au championnat du monde.
38, Vanessa.
Ah oui, ça remonte un peu. Mais pourtant, dans le judo, il y a quand même cette valeur de référence aux anciens, notamment aux maîtres. Et comment vous expliquez finalement qu'aujourd'hui, les jeunes, ils soient peut-être un peu moins réceptifs, ils ne se rendent peut-être pas compte de tout ce qui a été fait avant? Est-ce que c'est une histoire de transmission? Est-ce que peut-être on n'en parle pas assez, ou alors peut-être c'est leur génération et puis ils sont pas forcément liés avec ce qui s'est passé avant et du coup ils en prennent peut-être pas compte, enfin pas conscience.
C'est pas aussi simple ça à expliquer. En fait, j'ai pas les éléments de réponse de façon très 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 précise. Mais ce qui est clair, c'est que la notion de transmission est très importante. Mmh. Et je pense que nous, on essaie de s'atteler, notamment au PUC, de transmettre. Donc on a notamment sur le terrain des anciens professeurs. On a Bernard Jardin, qui est un professeur qui a 70 ans et qui a tout l'héritage, notamment de la culture japonaise, la culture du judo. Et donc, qui a une façon aussi d'enseigner qui est un peu différente de nos jeunes. Donc, on en a aussi des moins jeunes et on a des très jeunes. Donc, on a besoin, en fait, de cette mixité à la fois de jeunes professeurs qui vont amener du dynamisme, qui vont amener de la fraîcheur aussi au niveau de l'enseignement, qui vont être plus proches des jeunes judokas et répondre un peu plus dans la façon de communiquer à leurs attentes. On a des plus anciens qui vont inculquer d'autres valeurs et aussi d'autres techniques. Donc tout ça, eh bien, ce mélange s'inscrit, on essaie en tout cas, dans le respect et pour servir un peu mieux en fait le judo et notamment la section judo du PUC.
Alors justement, vous êtes combien au PUC à l'heure actuelle, la section judo là?
Nous à la section judo...
C'est un sport important au PUC?
C'est pas le sport le plus important parce que les sports le plus important reste le tennis. Donc c'est vraiment un des sports le plus important avec le football, avec l'athlétisme, avec le volley. Donc je pense que je vais
et
en oublier quelques-uns.
Et puis le rugby aussi, Jérôme Bousquet, il est chez nous.
Le rugby, qui se développe et qui s'est énormément développé depuis la Coupe du Monde aussi. Et puis, il y a aussi à chaque fois, il y a des présidents de sections qui sont à la fois dynamiques et qui ont énormément de valeur et qui ils sont toujours dans le souci de développer cette pratique sportive. Donc, c'est ce qui fait que, finalement, on a plutôt des freins par rapport aux espaces. Comme on l'a dit tout à l'heure, Pierre Abadan l'a rappelé, c'est-à-dire que il manque un petit peu de créneaux au niveau des installations sportives. Et on est plutôt à la recherche de plusieurs créneaux, davantage de créneaux pour pouvoir en fait se développer beaucoup plus.
Parce que vous pratiquez votre sport où?
Nous, on a quatre lieux de pratique. Ouais. C'est-à-dire qu'on a le dojo de Charletti. Je ne sais pas si vous connaissez le dojo de Charletti, mais c'est un dojo qui est magnifique.
Je vais souvent à Charletti.
Qui est en sous-sol, mais en fait, qui est vraiment, c'est un des plus grands dojos en fait de Paris. Il est très beau et très accessible. Et donc là, nous, on fait la majorité de nos cours sont dispensés en fait au dojo de Charletti. On a créé un dojo un petit peu éphémère, c'est-à-dire on installe les tapis et puis on les désinstalle après les séances de judo au gymnase Blanqui. Et là, pareil, et là, dans cette dynamique, on propose à la fois du judo, mais aussi de l'apprentissage en anglais. Donc, on a une intervenante qui vient faire des petites séquences d'anglais pendant les cours de judo. Donc, ça commence à partir de 4 ans. Il y a deux créneaux, un créneau à partir de 4 ans et un créneau à partir de 7-8 ans jusqu'à 15 ans. Et ça plaît à la fois aux parents, parce qu'il y a cette valeur ajoutée de l'apprentissage de l'anglais par une autre voie que l'école. Et puis, aussi, ça plaît, parce que c'est le but aussi que ça plaise aux jeunes, parce que tout ça se fait aussi dans une ambiance de plaisir, de convivialité, d'amusement. Donc, à la fois l'enseignement de la pratique du judo, mais à la fois aussi l'apprentissage de l'anglais.
Oui, puis ça permet de bien assimiler, parce que j'avais lu sur d'autres sports, notamment le foot, où ils faisaient des parcours. Et justement, en même temps, en apprenant des maths ou autre chose, parce que quand on est en mouvement, justement, le cerveau assimile mieux... Les connaissances,
c'est ça.
Voilà.
Voilà. Mmh. Oui, tout à fait.
Donc, avant tout, la vocation, c'est d'être un club formateur.
C'est un club formateur. Nous, on essaie d'avoir une pluralité des enseignants. On essaie d'avoir une qualité de l'enseignement. On a deux autres salles aussi à la cité universitaire pour les jeunes et les moins jeunes. Et puis, on a aussi à l'espace d'Hydro, on a une autre salle. Et on a, j'allais presque oublier, parce qu'on est inscrit aussi dans les projets culturels. Et maintenant, on a une proposition de cours de judo au Théâtre de la Ville,
d'accord,
à Paris.
D'accord, c'est
donc
bien.
Donc, les samedis matins, Donc les jeunes qui souhaitent venir, et en plus c'est gratuit jusqu'à la fin en fait de l'année, c'est-à-dire jusqu'à fin juin. Et les jeunes, donc il y a un créneau pour les 4-6 ans et un créneau pour les 7-14 ans.
Et vous êtes combien donc actuellement?
En tout, on est 269, mais on intègre dans les 269 les participants aux différents stages.
D'accord.
Donc on est un peu moins au quotidien.
Oui.
Sur
et
les tapis,
tranches d'âge, c'est essentiellement beaucoup de jeunes.
On a majoritairement en fait oui. des moins de 18 ans et majoritairement en fait je pense qu'on doit épouser à peu près les pyramides d'âge de la fédération de judo, c'est-à-dire que on a paradoxalement pas énormément de petits de 4 mais oui. de 6 à 12 ans, oui, on a plus.
Parce que c'est un sport
jeunes.
Qu'on fait pratiquement jeune. Hein.
Oui.
Le foot et le judo, c'est les deux sports qui sont souvent.
Alors, nous, on ouvre, en tout cas, le dojo, enfin, les tatamis, ils sont accessibles pour tous les jeunes à partir de 3-4 ans, enfin, 3 ans et demi, 4 ans. Mm-hmm. Et alors, évidemment, ce n'est pas une pratique du judo classique. C'est-à-dire qu'il y a énormément de parcours de motricité, il y a l'apprentissage de la roulade, être à l'aise dans l'espace. Donc, c'est des petits défis, des petits challenges. C'est sous forme de jeu. Donc, il y a vraiment un apprentissage qui est un peu spécifique pour ce qu'on appelle, nous, cette catégorie d'âge qui est le baby judo.
Oui. Et il y a les passages de grade après. Hein.
Il y a les passages.
Ah oui, c'est tous les ans, c'est ça?
Voilà, tous les ans.
Ouais, ouais. On va rappeler blanc, jaune, c'est ça?
Voilà. Et après la ceinture blanche, on a la ceinture jaune.
Ouais.
Après la ceinture jaune, c'est la ceinture orange.
Vert.
Après verte, bleu, marron
et noir.
Et
d'accord,
ceinture noire.
C'est bien.
Et après, on a les dames. Et on a certains qui préparent voilà, la
ceinture
noire.
Oui, il y a le papa de Vanessa qui a fait un dojo chez lui.
Voilà. J'ai raté. Mais moi, j'avais fait du judo quand j'étais petite. Voilà. Et pour ça, j'avais des souvenirs des petits bicolores.
C'est combien le prix d'une licence? C'est trop tard pour vous rejoindre maintenant?
Non,
ou
pas
il
du
faut
tout.
Attendre
alors
le mois
non,
de septembre maintenant?
C'est-à-dire qu'en plus, il y a un tarif préférentiel maintenant.
Ah oui,
puisque effectivement, il y a le premier trimestre qui a été un petit peu raté. Donc, du coup, on peut s'inscrire tout le temps. Donc, il y a une...
Bon, c'est pas un sport très cher, quand même. Hein.
Non, mais ça reste parce que, de plus en plus, c'est un sport qui s'est professionnalisé. Mm-hmm. Donc, nous, les professeurs, ils sont professionnels, c'est-à-dire qu'ils sont salariés du club. Donc, derrière, il y a des charges. Et donc, effectivement, on ne peut pas faire une pratique gratuite pour tout le monde. Mais en pleine saison, avec la licence, c'est 350 euros pour les nouveaux. Pour ceux qui renouvellent, c'est 300 avec la licence. Et puis, je ne sais plus le tarif est précis là, à partir de maintenant, mais c'est moins de 200 euros pour au moins jusqu'au mois de juin.
Alors, il paraît que les kimonos, on se les revend parce que les jeunes grandissent.
Oui, c'est ça.
Eh oui, ils grandissent, alors, ouais.
Donc, alors nous, on a un kimono, évidemment, avec l'effigie du Paris Université Club, donc avec la violette et évidemment cette couleur violette qui nous caractérise.
Quel symbole du club, oui.
Voilà. Mmh. Mais effectivement, donc les anciens ou les plus grands, en fait, transmettent à la fois les ceintures et à la fois aussi les kimonos aux plus jeunes.
Alors, vous êtes un sport avant tout, une section avant tout universitaire, vous l'avez dit, l'origine du PUC. Vous allez dans les écoles où vous faites des opérations. On parlait aussi de Paris 2024. Vous faites aussi des opérations dans le cadre de Paris 2024
dans une école bientôt au mois d'avril. On va aller notamment dans le cadre d'une exposition itinérante pour Paris 2024. On va aller dans le 15e arrondissement et notamment proposer du judo dans toutes les classes, donc les classes à la fois maternelles et l'école primaire.
Et les compétitions les plus importantes pour vous dans une saison, ce sont lesquelles pour votre club?
Pour les clubs, évidemment, c'est-à-dire que on essaie en fait vraiment d'ouvrir la pratique sportive pour tous. Donc on va avoir des compétitions amicales pour les très jeunes. On va avoir des regroupements aussi, plutôt techniques. On veut aussi que donner des réponses aux jeunes qui s'inscrivent uniquement pour le loisir, mais aussi celui qui veut s'inscrire au niveau de la compétition. Donc on essaie de proposer de faire du sur-mesure par rapport à nos jeunes. Mmh. Donc les compétitions les plus importantes, évidemment, c'est les tournois internationaux, notamment nos jeunes cadets qu'on envoie participer à certains tournois internationaux. Mais bien souvent, le club, c'est aussi un point de départ avant de regagner des structures plus adaptées d'entraînement
plus,
pour
plus
eux.
Grande, plus large ailleurs.
Que, voilà, le Pôle Espoir. Où, voilà, on a quelques jeunes qui, notamment, étaient là l'an dernier, qui vont probablement...
Partir ailleurs, c'est normal.
Voilà,
c'est dans
partir, sur des pôles Espoir et pour pouvoir...
Alors, vous qui êtes une ancienne sportive de haut niveau, est-ce qu'on arrive tout de suite à déceler la personne plus douée que l'autre ? Peut-être un petit peu plus compétitrice. On arrive à se dire, tiens, c'est... celui ou celle-là,
on voit au niveau, il y a des capacités d'apprentissage ou des facilités, évidemment, dans la gestuelle. On se dit, il a un bon potentiel.
Voilà, c'est
Après, il faut, à chaque fois, je le dis, parce qu'il faut avoir du talent. Si on n'a pas de talent, de toute façon, on ne peut pas faire
quand
du
même.
Sport. Oui, et il y a le travail et l'entraînement, l'entraînement et donc le temps, parce qu'il faut du temps aussi. Mais il faut aussi avoir le goût de son talent. C'est-à-dire qu'il faut avoir le goût de son potentiel, parce qu'il y en a qui ont vraiment du potentiel, mais qui n'ont pas envie de s'investir davantage fait,
dans la pratique. C'est ce qui fait la différence, c'est l'envie.
Voilà.
C'est pour ça qu'on parlait un petit peu de votre passé, votre parcours. Vous l'avez peut-être voulu plus que les autres.
Donc, je ne sais pas trop. Au départ, je ne sais pas si j'avais vraiment envie de... j'ai suivi un chemin. C'est-à-dire qu'il y a plein de portes qui se sont ouvertes. Et à un moment donné, j'ai pris ce chemin-là et on s'engage.
On fait des choix.
C'est l'engagement.
Alors, il y a quand même dans votre sport une notion importante, c'est le poids.
Oui.
La diététicienne que vous êtes donc va pouvoir bien en parler. Parce que c'est vrai que le judo, il faut faire le poids.
Sauf pour les catégories lourdes, pour les catégories lourdes.
Mais il faut faire attention à ce qu'on mange, il faut faire attention à ce qu'on boit. C'est ça aussi la différence, elle se fait là.
Oui, alors déjà, il faut avoir un poids de corps qui soit adapté à la catégorie de poids qui est proposée. Donc c'est vrai que c'est plus facile pour les uns que pour les autres. Et donc, effectivement, il faut à la fois choisir une catégorie de poids adaptée, à la fois regarder l'évolution de la masse musculaire, parce qu'inévitablement, quand on s'entraîne deux fois par jour, on a une augmentation de la masse musculaire, donc une augmentation du poids. Et après, une gestion du poids qui peut devenir un peu plus problématique. Et de plus en plus, il y a aussi cette possibilité de changer de catégorie de poids, ce qui n'était pas trop le cas, nous, à notre époque.
C'est bon, ça ? C'est bon de changer de catégorie
de poids ?
Oui,
c'est mieux, parce qu'en fait, ça permet de résoudre cette problématique de perte de poids, assez importante à l'approche de l'échéance. Mais il y a toujours au moins ces quelques kilos, la plupart du temps, qui est à perdre avant une compétition très importante. Mais moi, j'ai connu à mon époque, il y avait certains judokas qui perdaient 10 kilos à l'approche de compétition. Maintenant, on est plutôt sur un delta qui est beaucoup moins important. Donc, ça peut aller à 4 kilos, mais bien souvent, ça reste 2 kilos et parfois un peu moins.
Et vous étiez quelle catégorie ?
Moi, j'étais dans la catégorie des moins de 52 kilos. Au début, je n'avais pas trop de problématiques, mais j'ai pris aussi, comme tout le monde, un peu de masse musculaire. Et donc, j'ai dû aussi gérer, en fait, j'avais 2 kilos au maximum, 2,5. Donc, ça veut dire que derrière, on contrôle un peu plus son alimentation. On a une attention un petit peu particulière par rapport à l'alimentation et c'est peut-être pour ça aussi que je me suis orientée,
c'est la transition, ça vous a emmené vers cette nouvelle activité nutritionniste diététicienne. C'est indispensable dans le sport de haut niveau, cette notion.
Oui, de gérer ça en fait. C'est-à-dire certains sportifs le gèrent à peu près correctement, presque naturellement, parce qu'ils ont eu des habitudes alimentaires. Mais on a aussi certains sportifs qui ont eu de très mauvaises habitudes alimentaires jeunes. Et donc, il faut les modifier, il faut les accompagner, etc. Donc, l'accompagnement, c'est vraiment un des éléments importants de la performance. C'est-à-dire qu'il faut l'accompagner. En plus, c'est une préoccupation du quotidien. C'est-à-dire 3-4 fois par jour, il y a une préoccupation autour de l'alimentation, c'est-à-dire il y a le petit déjeuner, il y a ce qu'on va prendre éventuellement avant la phase d'entraînement, juste après, le déjeuner, éventuellement collation ou pas, quelle nature de la collation, le dîner, toutes ces périodes, l'hydratation qui est associée. Donc il y a énormément, en fait, et dans cette répartition-là aussi, il faut gérer la qualité, il faut gérer la quantité, il faut gérer la diversité, parce qu'en fait, la potion magique, elle se trouve dans la diversité. Il n'y a pas de produit miracle dans l'alimentation du sportif, il faut s'inscrire dans une diversité.
Et pour tous les sports, c'est les mêmes, parce qu'il y a des sports différents quand même.
Il y a des particularités
en fonction des sports, oui.
Il y a des sollicitations un peu moindres dans certains sports, donc ça veut dire que ça va nous renvoyer à un grammage de protéines qui sera à adapter. On a des apports caloriques qui vont être moindres dans certains sports. Il y aura des priorités, il y aura énormément de différences, c'est-à-dire notamment le jour de la compétition, parce qu'il y a autant de plans de stratégie d'accompagnement de compétition qu'il y a d'individus. Ça dépend un peu de la chronologie, du déroulé de la compétition, mais il y a quelques principes qui vont être identiques pour, pour tous les sports. Ouais.
Quels sont les sports les plus durs ? C'est les sports où il faut faire le poids, la boxe, le judo, tous les sports de combat. C'est peut-être plus facile de faire un petit peu plus de poids pour le foot ou le vélo ? Je pense que les situations sont beaucoup plus fluides aujourd'hui.
Les préoccupations sont différentes. Ouais. Dans le judo, voilà, il y a cette situation du poids de corps, mais il y a aussi, il faut optimiser les phases d'entraînement. Pour optimiser les phases d'entraînement, il faut aussi avoir une bonne gestion, enfin une bonne composition corporelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, si on a un excédent de masse grasse, ça peut être un frein à la vitesse d'accélération et de rotation. Donc, globalement, il y a une priorité. Mais pour le footballeur, c'est la même chose. C'est-à-dire que lui, s'il veut accélérer, etc., dans sa vitesse de rotation, il y a aussi une gestion. Et il doit aussi avoir suffisamment d'énergie. Le rugbyman, il y a une autre préoccupation. Ça va être la masse musculaire aussi.
Comme le skieur qui va descendre. Skieur, en général.
Donc, il y a des particularités. Voilà, il y a des principes de base et il y a vraiment des particularités pour chaque discipline.
Oui, et puis à l'inverse, il y a aussi des sports à maturité précoce, comme la gymnastique, le patinage artistique, où là, le contrôle du poids, surtout quand il y a la puberté qui arrive, il y a forcément un changement dans les habitudes alimentaires, on imagine, qui est différent peut-être d'autres sports où les préoccupations sont différentes.
Bien sûr, en fait, tous les sports esthétiques, tels que la gymnastique, natation synchronisée, encore la gymnastique est vraiment un sport à maturité précoce, donc qui a déjà reçu plein de messages au niveau de la nutrition, donc parfois quelques interdits, quelquefois. Donc là, il faut souvent rassurer, en fait, et prévenir aussi en indiquant que, effectivement, le pourcentage de masse grasse, naturellement, va augmenter avec la puberté. Donc c'est un passage qui est beaucoup plus accepté maintenant qu'il y a quelques années.
Ouais. Quels sont les sports les plus en retard ? Est-ce qu'il y en a ?
Je pense que c'est plus... Je pense, en fait, il y a une préoccupation, préoccupation, tout le monde en parle. Dans l'application, parfois, on voit aussi le sportif qui est dans son double projet. Il a déjà énormément de contraintes liées à l'entraînement.
C'est la difficulté,
il a des contraintes liées aussi à la formation. Parfois, il est éloigné aussi de la famille. Le moment de repas, c'est le moment
où il faut se lâcher un peu de temps à autre. Voilà. C'est ça le problème.
Il y a l'environnement familial aussi.
Et aussi, c'est-à-dire que si on propose des plans alimentaires qui ne sont pas en adéquation, en tout cas avec la notion de plaisir, et sans trouver une réponse affective à travers la nourriture, on a tout faux. Mais il faut un certain dosage. En fait, tout est une question de dosage. Donc, nous, on accompagne les sportifs dans l'échange et pour trouver le bon dosage pour qu'ils soient à la fois au poids le jour de la compétition, mais à la fois aussi qu'ils se fassent plaisir en dehors et qu'il n'y ait pas trop d'interdits dans l'alimentation. Etc. Donc, il faut trouver une harmonie entre la dimension biologique, la dimension de nature énergétique, la dimension sociale aussi, avec la notion de convivialité, parce qu'il ne faut pas s'isoler non plus pour manger. Et puis, la notion psychologique pour trouver des réponses émotionnelles à ce qu'on mange.
Oui. Donc, on va rappeler que vous travaillez à l'INSEP, en plus donc de la présidence du judo, avec tous les sports. Vous avez travaillé pour le foot, pour le vélo, pour le...
Oui, c'est vrai. J'ai touché un peu à quelques sports professionnels, comme le foot, et c'était il y a quelques temps. Et à cette époque-là, en fait, il y avait très peu. Maintenant, on trouve pratiquement dans les équipes. Il y a toujours un diététicien nutritionniste ou une diététicienne nutritionniste qui
est comme un coach. Maintenant, on en trouve partout.
Mais à cette époque-là, non. Ouais. Donc, il fallait tout mettre en place. Donc, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup aimé mettre en place, en fait, les repas avant match, les repas après match, les collations sur place quand ils venaient s'entraîner, quelque chose d'assez naturel. On avait la chance aussi d'avoir des intendants qui travaillaient en synergie avec nous. Donc, j'ai beaucoup aimé.
Et
en fait,
les clubs l'acceptent. Vous êtes bien perçu par les clubs, non?
Souvent, c'est les clubs qui... c'est pas nous qui... En tout cas, moi, je n'ai jamais tapé à aucune porte. Donc, on m'a plus sollicité.
Je sais qu'il y avait un problème parfois pour les coachs, hein, qu'on allait chercher, puis on disait, lui, qu'est-ce qu'il vient faire dans l'environnement du club?
Après, en fait, si vous voulez, la particularité de la diététique, malgré tout, c'est que le sportif, il doit être autonome par rapport à ses choix alimentaires. Mmh. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas être derrière au moment. C'est-à-dire qu'on va lui permettre de faire des choix éclairés. Donc, on va l'accompagner pour qu'il fasse des choix éclairés. Mais le sportif, les choix alimentaires, c'est quelque chose de privé, d'intime et de personnel.
Bien sûr, on n'est pas derrière lui quand il rentre à la maison.
Et ça doit rester... On doit préserver aussi cette dimension-là. C'est-à-dire qu'on ne doit pas non plus générer de la culpabilité parce qu'il a fait un mauvais choix. Et,
Et justement, si je peux me permettre, comment on peut gérer éventuellement la survenance de troubles alimentaires tels que l'anorexie ou la boulimie, même si, évidemment, c'est une question peut-être un peu complexe, mais j'imagine que peut-être vous travaillez aussi en partenariat avec des psychologues. Il y a peut-être un pôle, une équipe où ces problèmes surviennent assez souvent quand même dans le sport de haut niveau, comme dans d'autres sphères. Mais voilà.
Oui, alors il y a un pôle médical à l'INSEP avec des psychologues et il y a des médecins. Donc en règle générale, lorsque c'est parfois soit c'est l'entraîneur qui a décelé, soit c'est l'athlète qui vient. En fait, qui exprime. Parfois, c'est le psychologue. En fait, il y a différents. Et l'accompagnement, bien souvent, il se fait avec à la fois le médecin, le psychologue, le diététicien, nutritionniste. Et lorsque c'est un cas, parce que si c'est vraiment des troubles des conduites alimentaires avérés, donc là, il y a aussi l'aide de structures extérieures à l'INSEP pour mieux accompagner en fait le sportif dans cette dynamique-là.
Très bien. Merci. Vous restez avec nous. On va écouter la deuxième pause musicale. Ensuite, ça va être le point foot. Donc, Imagination, Flashback, je la rappelle aussi. Bon souvenir. Allez, on y va. Allez, tiens, ça va vous faire plaisir, Véronique. On va commencer par le foot féminin avec notre ami Stéphane Desenclos, du quotidien du sport. Stéphane, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à toutes et à tous.
Oui, alors Stéphane, la bonne nouvelle, ce sont nos filles du foot qui, enfin, j'allais dire, ont franchi un palier en décrochant donc leur billet pour la finale de Ligue des Nations. On va rappeler qu'elles ont battu l'Allemagne 2-1, alors que l'Espagne a largement battu les Pays-Bas 3-0. Finale donc mercredi à 19h.
Ouais, tout à fait. Bon, faut quand même aussi relativiser, c'est que c'est que la Ligue des Nations quand même. Hein. Donc on rappelle qu'à la base, c'est fait pour remplacer les matchs amicaux. Pour ça, l'Allemagne, c'est une bonne équipe, donc c'est un très bon résultat de la part de l'équipe de France d'en être arrivé là. Ça veut dire que ça confirme. Et ça serait bien d'avoir un titre, mais ça va quand même être très, très compliqué contre les championnes du monde.
Oui, en plus, ce sont chez les Espagnols. Hein. Mais enfin, bon, ça peut être, un bon tremplin pour l'objectif final, c'est d'aller chercher une médaille olympique.
Oui, tout à fait. Ouais. Mais je trouve qu'on peut en parler quand même à cette occasion. Bon, ça mériterait, je pense, un débat plus complet et tout. Mais bon, elle est quand même, je trouve que le statut et la façon dont est gérée cette équipe de France, je la trouve un peu étrange quand même. Parce que si ce que je sais est exact, mais là je dis ça de mémoire, Hervé Renard, il sera en fin de contrat après les Jeux Olympiques, non ?
Oui. Bah, l'objectif, c'était qu'il aille jusqu'au jeu. Oui, après, bon.
Voilà. Mais ouais. Je trouve ça un peu.
Bah oui.
Toujours un peu étrange quand même, je trouve, ce genre de choses. Alors, quand tu as effectivement un Didier Deschamps qui est là depuis très longtemps, on sait qu'il s'arrête, quoi. S'arrête normalement, ça, jusqu'à après l'Euro.
Donc, à la Coupe du Monde, hein. Il a signé jusqu'en 2026, Deschamps.
Ouais, voilà. En plus de ça. Donc, effectivement. C'est un peu, je trouve la situation elle est bizarre, quoi. On en parle à droite, à gauche, on parle de partout où il peut aller. Renard, bien sûr, c'est les sélections africaines, s'intéresse à lui, ou c'était après ce qui s'est passé pendant la CAN, quoi. Je trouve que ça fait un peu bizarre, quoi, vu comme ça.
Oui.
Quelqu'un qui a été pris comme ça, c'est juste pour ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas non plus le sentiment, quoi, je ne sais pas vous si vous avez ce sentiment, bon, il a, c'est peut-être pas prononcé là-dessus, mais on n'a même pas le sentiment qu'il ait vraiment envie de prolonger. On a l'impression que c'était juste un passage comme ça, on ne les sent pas, pour l'instant en tout cas, c'est ce que je ressens, c'est un peu bizarre, mais en tout cas bravo pour elles. De toute façon, les filles, elles méritent ça. C'est vrai que bon, ça va être vraiment un exploit, bien sûr, ce sera un exploit incroyable, je pense, à mon avis, de gagner l'Espagne en finale, ça serait vraiment un gros exploit, quoi.
Oui, en tout cas, tant mieux, parce que la semaine n'a pas été très très brillante, Stéphane, hein, à travers nos résultats de clubs français en Coupe d'Europe, 3-4 éliminés en Ligue Europa. Lens éliminé après son match nul donc à domicile 0-0. Lens a carrément flanché dans la dernière ligne droite, battu 3-2 après prolongation. Rennes, malgré un sursaut d'orgueil avec une victoire 3-2 à domicile, on sait que c'était déjà très difficile pour Rennes, battu à l'aller 3-0 d'enverser la situation. Et puis Toulouse qui, malgré une défaite à Benfica 2-1, a tout tenté, mais 0-0, ça n'a pas été suffisant pour se qualifier.
Ouais.
Seul Marseille a sauvé la face, donc après un nul contre Donetsk, victoire des Marseillais 3-1 donc à domicile, après un nul à l'aller de partout.
Ouais, mais alors c'est un peu pareil, hein. Je vais paraître peut-être un peu trop gentil ou un peu trop foot français et tout, mais moi je trouve que dans cette semaine européenne, par rapport à ce qu'on pouvait attendre, qu'on pouvait espérer et tout ça, il y a une énorme déception, une grosse faillite, c'est celle de Lens, quoi.
Bah oui.
Parce que sinon on a sans Lens, on n'a pas de défaite alors qu'on avait quand même deux clubs, Rennes et Toulouse, qui jouaient le Milan AC et Benfica. Je veux bien que peut-être le Milan, qui avait gagné 3-0 à l'aller, est venu avec une certaine confiance et peut-être un peu de nonchalance, et que c'est pour ça qu'ils ont perdu. Mais ils ont quand même, Rennes a quand même battu le Milan AC, et puis Toulouse était quand même à deux doigts de faire un exploit. Il y a eu quand même ils étaient plus proches de marquer un but que d'en prendre un, de faire un exploit incroyable pour le Benfica. Donc ça, c'était quand même des très très bonnes performances. Maintenant, si jamais on vous dit en plus de ça, Lens, imaginons que Lens soit resté sur sa lancée sur 2-0 à Fribourg, vous dites, bon, bah, en fait, il y a eu 3 victoires, 1 nul. C'était une super semaine européenne. Maintenant, c'est vrai que le bilan, c'est que bon, on savait quand même normalement que Benfica et Milan passaient pas. Donc, je redis, même sur les 2 matchs, la grosse déception, c'est effectivement le parcours de Lens.
Ouais, mais c'est assez fréquent dans le foot français. On sait que Rennes et Monaco avaient eu un petit peu le même type de parcours la saison dernière, hein, en flanchant dans la toute dernière ligne droite. Donc les 8e de finale, ce sera Marseille-Villarreal en Ligue Europa et puis Sturm Graz contre Lille. Un petit mot sur les matchs de Ligue des Champions qui n'ont pas été exceptionnels. Hein. Match nul entre le PSV Eindhoven et Dortmund 1-1. Victoire de l'Inter de Milan devant l'Atlético Madrid 1-0. Victoire aussi de Porto devant Arsenal 1-0. Et nul entre Naples et Barcelone.
Ouais, voilà. Ça
n'a pas été une semaine exceptionnelle hein, pour la Ligue des Champions.
Non, ça n'a pas été exceptionnel. De toute façon, on le savait. Hein, oui. On le savait. Hein, même sur les 2 semaines, on va dire, il n'y a pas eu non plus... des choses merveilleuses. Hein. On a beaucoup parlé de la polémique de la semaine dernière. La semaine dernière, c'est la polémique où il y a 2 semaines, la polémique de Real Madrid à Leipzig. Il n'y a rien eu de un match un peu pourri entre guillemets du Paris Saint-Germain contre la Real Sociedad. On a l'impression, je ne sais pas s'il faut dire, il n'y a plus de petites équipes ou quoi, mais il n'y a personne qui...
Oui, il n'y a pas d'équipe qui sorte un petit peu du lot au niveau de l'impression et de la manière pour l'instant. Sauf peut-être Manchester City.
Ouais. Il se passe un peu rien, quoi, donc c'est ça le problème. Quoi, donc,
Alors, 23e journée de championnat. Alors là, en Ligue 1, on a eu la victoire de Lyon à Metz 2-1. Un Lyon qui confirme en tout cas son redressement. Victoire importante de Nantes aussi à Lorient 1-0. Brest qui a confirmé par contre sa bonne santé en s'imposant à Strasbourg 3-0. Super match entre Lens et Monaco avec une victoire finale des Monégasques à Lens 3-2. Ça n'a vraiment pas été la semaine pour les Nordistes. Nice et Clermont 0-0. Grosse déception pour Nice qui continue. Sa petite baisse de régime. Toulouse qui bat Lille 3-1, c'est un petit coup d'arrêt pour Lille. Et puis les deux autres matchs, c'est Reims qui gagne au Havre 2-1. La nette victoire de Marseille devant Montpellier 4-1. Là, par contre, semaine plutôt fast pour l'OM. Et puis le nul entre le PSG et Rennes 1-1.
Voilà, ça n'a pas non plus été des matchs. À part Lens au Monaco, c'est un match exceptionnel. Maintenant, je pense que ça a été un match exceptionnel, mais Lens aurait même mérité que ça se passe encore moins bien parce que ils sont dans le dur. Mais bon, finalement, moi personnellement, ça ne surprend pas du tout. Quoi. Mm-hmm. On s'est un peu enflammé. Je sais, on a souvent eu des débats avec vous, Philippe, ou dans Au bout du foot sur. Sur les supporters, le rôle des supporters et tout ça, bon, donc ça a emprunté, mais bon, au bout d'un moment, c'est vrai que les supporters, ils sont beaucoup plus, positifs et actifs sur une équipe quand t'as Seko Fofana et Loris Openda dans l'équipe, que quand tu les as plus et que tu les as pas forcément très 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 bien remplacés. Donc c'est compliqué. Je pense que Lens atteint son est à son top, quoi, dire qu'il va être 6e, 7e, peut-être se faire attraper par l'OM par exemple ou par Rennes, je sais pas si...
Oui, alors justement, le classement, bon, on parle plus du Paris Saint-Germain, hein, qui est largement en tête avec 54 points, devant Brest, 2e, 43, 3e, Monaco, 41, 4e, Nice, 40, et 5e, Lille, 38, et après, il n'y a que 5 points entre Lille, justement, 5e, et Marseille, qui est 9e, seulement 5 points d'écart, et 6 points entre Lyon, qui est 10e du championnat, et puis Montpellier et Lorient, qui se battent pour les barrages.
Oui, tout à fait, bah, vraiment, c'est vrai qu'il y a une sorte de nivellement, mais il y a aussi des équipes. C'est un peu une saison de série, en fait, hein, si on regarde bien. Il y a Reims, un moment qui brillait, qui éclatait, qui battait tout le monde. Et puis, finalement, ils se sont écroulés. Maintenant, là, ils ont une victoire intéressante face à Wam. Je crois que c'est ça qui est un peu quand même en crise de résultats aussi, qui, à un moment, allait beaucoup mieux. Après, on a vu Nice au début. C'est autour de Nice. Moi, je l'ai toujours dit. Donc, que Nice, c'était quand même très, très, très limité, que c'était très surcoté. Bon, dès que ça devient un peu dur, là, leurs résultats sur les, en 2024, ne serait-ce qu'en 2024, doit être catastrophique. Oui. Je pense qu'au classement, ils sont peut-être dans les 5 derniers, ou peut-être un peu plus, peut-être dans les 5 derniers. Donc c'est compliqué. On a vu dans l'autre sens Lyon qui est incroyable, qui fait une série exceptionnelle. Lyon qui doit être
10e du championnat, 28 points.
Ouais, tout à fait. Et on a fait un article dans le quotidien du sport cette semaine. Je crois qu'il serait quatrième sur depuis que Pierre Sage a pris l'équipe. Oui. Ça doit faire et ça doit rester pareil au pire. Voilà, c'était avant le match de cette journée-là. Ça faisait 9 matchs, donc ça fait 10 maintenant. Bah depuis, sur les 10 derniers matchs, ils sont 4e de Ligue 1.
Oui.
Sur le classement, que là-dessus. Quoi.
Voilà, et puis ils sont décrochés. Ouais. Et puis ils sont décrochés en bas de tableau. Hein. Ça va être compliqué pour eux de se maintenir. Hein. Donc Metz et Clermont, bon dernier avec 17 points. En Ligue 2, Stéphane, donc 26e journée, Saint-Etienne qui remonte, qui continue sa montée. Ils ont battu Annecy 2-1, nul entre Auxerre et Bastia 1 partout. Victoire de Laval à Concarneau 3-1. Victoire de Pau à Grenoble 1-0. Grenoble qui a aussi un petit coup de moins bien actuellement. 0-0 entre Ajaccio et Amiens. Et 0-0 pour le Paris FC contre Quevilly-Rouen. Ce soir, il y a Caen-Angers à 20h45. Auxerre donc qui prend un peu de large, 51 points devant Angers, 2e 46, 3e Laval 44. 4e, j'ai dit Saint-Etienne 41 et 5e Grenoble 40 et le Paris FC qui est en milieu de tableau avec Guingamp et Bordeaux 35 points et puis en bas de tableau on a Bastia 15e avec 3 et Dunkerque 30 points, 18e Quevilly-Rouen 25 points, 19e Annecy 23 points et par contre bon dernier décroché donc Valenciennes avec 15 points.
Ouais. Tout à fait, là on va voir la journée, vous disiez que ce soir il y avait Caen-Angers.
Oui.
Ça va être un match quand même très important parce que si je regarde ce que vous avez dit, votre classement à l'instant.
Oui, s'ils veulent rester au contact.
Angers à 5 points d'Auxerre, pourrait revenir à 2 points en cas de victoire, mais pourrait aussi rester à 5 points en cas de défaite, ce qui serait grave. Et puis, Caen, qui a 35 points, vous leur ajoutez 33 points, c'est un sacré bond aussi vers en tout cas le top 5, hein, parce que je ne sais pas si... Je crois que le top 5, c'est Grenoble qui est 5e, qui doit être à 5e avec 40 points.
C'est
crois,
ça, quelque chose c'est, comme ça, ça hein. C'est ça, c'est ça.
Donc, le match de ce soir peut être effectivement... Pour une équipe ou l'autre, de faire la bascule. Quoi. Angers restera toujours en haut et dans la course pour au moins les barrages, mais en tout cas pour faire la bascule. Mais ce championnat est fou. Saint-Etienne, on pensait vraiment d'abord vers la Ligue 2, après, ce que je disais tout à l'heure, complètement perdu. Oui. Et puis Dunaco qui revient.
Oui, et ils vont à Charletti, Paris FC, Saint-Etienne contre le Paris FC ce samedi, donc à Charletti, 15h.
Ça va faire de l'ambiance, hein, on a dit. Ils vont certainement avoir un stade, probablement un stade plein.
Oui, alors en national, 22e journée, le Red Star qui a battu Le Mans 4-1, qui continue son cavalier seul. Et puis Versailles qui a changé d'entraîneur, battu à domicile par Châteauroux 3-1. Donc le Red Star en tête à 46 points, devant New York 2e 41 et 3e Martigues 37. Et puis Versailles, ils sont en milieu de tableau avec Avranches et Le Mans 25 points.
Ouais, tout à fait. Voilà, oui, comme vous l'avez dit, qu'on change d'entraîneur. Quelqu'un que je connais très bien, Jean-Luc Vasseur, qui a été formé au Paris Saint-Germain, joueur du Paris Saint-Germain, joueur de Rennes, entraîneur chez les jeunes au Paris Saint-Germain, entraîneur de l'équipe, peut-être certains l'ont oublié déjà, mais entraîneur de l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais, entraîneur de l'équipe féminine de... Alors, je crois que je vais me tromper, je ne sais pas si c'est Chelsea ou en tout cas en Angleterre.
Ouais.
Il a aussi entraîné en Angleterre. Et là, il revient là, effectivement. Ça faisait maintenant depuis son départ de Lyon, je crois qu'on l'avait pu, ou d'Angleterre, peut-être, je ne sais plus dans quel sens. Bref, il revient pour essayer de sauver parce que c'est sûr qu'ils ne sont pas sauvés. Versailles, ils ne sont pas sauvés du tout. Hein. Ça va être compliqué. C'est un championnat pareil. C'est un championnat complètement fou. Nancy, qui était vraiment pendant un moment. Oui. Aux portes de la Serie 2 qui est revenue. Et il y a effectivement le Red Star qui, cette fois, normalement.
Cavalier seul.
Devrait aller jusqu'au bout, puisque là, il n'y a pas de barrage hein, cette année. Il n'y a que les deux qui.
Oui, oui. C'est ça. Hein. Non, c'est ça. Oui, oui. Effectivement.
Voilà. Il n'y a même pas le troisième. Rien, donc, c'est deux. Donc, ça va être dur derrière. Mais bon, ça dispute, c'est pour les effectivement entre le le deuxième et cinquième ou sixième, il n'y a pas beaucoup de points non plus. Donc ça va être discuté jusqu'au bout, ça.
Alors, un petit mot National 2, hein, la 17e journée, le Paris Atlético est allé faire 1-1 à Saint-Privé-Saint-Hilaire. Et pour l'instant, c'est toujours Libourne en tête avec 29 points devant l'équipe vendéenne des Herbiers, hein, finaliste de Coupe de France il y a quelques années avec 28 points. Et le Paris Atlético, malgré un match en retard, eh bien 6e avec justement Saint-Privé-Saint-Hilaire et Bourges, 24 points. Alors Stéphane, ça tombe bien parce que notre invitée, elle est ancienne championne de judo, diététicienne, et elle a travaillé dans le domaine du foot, notamment sur la diététique avec Lille et le Paris Saint-Germain. Stéphane, vous avez une question ? Oui, oui. Donc voilà. Ça reste un bon souvenir
Oui. Ça date un petit peu.
Hein. Attends, oui.
C'était dans les années 2000, donc oui, c'est un excellent souvenir.
Oui. Vous avez travaillé...
Comme j'avais dit, en fait, j'avais eu cette chance de mettre en place les projets. Il y avait très peu de diététiciens nutritionnistes qui intervenaient en fait, dans les équipes. Et donc, j'ai eu ce privilège-là. Et avec une très bonne écoute aussi du médecin et de l'entraîneur. Ouais. Donc, ça, c'est bien aussi.
Parce il n'y avait pas les Qataris à l'époque. Hein.
Donc, non.
C'était peut-être plus facile.
Ouais. Ah, voilà. Encore.
Très bien. Merci Stéphane, en tout cas, pour ce moment.
De rien. Merci à vous et bonne soirée.
Et puis, rendez-vous la semaine prochaine. Hein, OK,
ouais, okay. Bah,
allez.
Pas de problème.
Merci.
Pas de problème.
Semaine de Coupe de France, hein, cette semaine. Hein. Semaine de Coupe de France.
Ouais,
voilà.
Ouais, ça va être passionnant.
Voilà. Merci Stéphane, en tout cas. Voilà. Voilà, on va finir donc effectivement avec, donc vous allez porter la flamme, je l'ai dit, ça va être avec vous, on va finir en votre compagnie fatalement, vous allez porter la flamme, vous allez être quatre quand même, c'est fabuleux.
Oui, on est quatre du club en fait à porter
donc
la flamme,
Dédier,
donc il y a Brigitte Dédier, il y a Geneviève Petec et, au niveau de la boxe française, et on a Myriam Romero du baseball, et qui est en charge de la section aussi, qui est très active au niveau de la section baseball.
Comment s'est fait le choix?
Ah ça, je ne pourrais pas dire.
On vous a appelé.
En fait,
c'est qui vous a appelé? C'est le maire du 13e?
Donc, c'est pas le maire du 13e.
C'est Eman?
Non. Donc c'est... Oui. Alors, j'ai eu une première surprise en septembre. On m'a appelé, on m'a dit, voilà, votre nom a circulé, etc. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un petit mot, enfin quelques lignes sur votre parcours, etc. J'avais un peu zappé, pris dans le... dans une autre ambiance de travail, etc. Et on m'a rappelé pour que j'envoie, etc. Je l'ai fait et j'ai eu un coup de téléphone un soir, tardivement.
Quelle joie!
Et en me disant, voilà, je suis très,
c'est
très
normal
heureux
pour la carrière, hein.
Bah ouais. De vous annoncer que vous allez être... Et c'est vrai que au début, je pensais que c'était éventuellement une blague.
Quand même.
Je me suis dit, bon, je m'assure quand même du coup de fil. Je pose deux, trois questions pour vérifier que c'est bon interlocuteur, et franchement non c'était c'est à la fois c'était absolument pas une recherche, hein, donc je pense qu'il y a plein de gens
c'est une belle
qui méritent aussi
quand même.
De porter la flamme.
Il y a beaucoup d'anciens sportifs sollicités, on parlait du foot, il y a Jean-Michel Larquet du côté de Saint-Etienne, Bernard Hinault qui va le faire dans les Pyrénées.
Il y a tellement de sportifs aussi qui mériteraient de porter cette flamme, mais c'est vrai que je pense que
qu'on essaie quand même de les récompenser.
C'est aussi par rapport à l'engagement dans différentes, et le côté associatif et aussi le parcours personnel et... Voilà, qui ont
vous
fait
allez,
que...
Ouais, vous allez vous investir sur les jeux, vous avez des billets, non? Vous avez des
alors
billets,
moi, j'ai
vous,
acheté,
allez,
j'ai
vous êtes
acheté,
bénévole,
voilà,
non,
et puis nous, à l'INSEP, on va être camp de base.
Ah bah oui.
Donc certains, énormément en fait, d'acteurs de l'INSEP, hein, de collègues, vont être référents de différentes disciplines. Et aussi, nous, on va travailler en fait, au quotidien sur cette partie nutrition.
Bon, on essaiera d'aller vous voir pendant les Jeux. Ça va être très chargé, mais on va essayer d'aller vous voir pendant les Jeux. Donc, le PUC, c'est 41 disciplines, avec quand même 30% de pratiques féminines. C'est bien, c'est
voilà.
Bien.
Et on a un événement à venir, qui est le 17-18 mai, je crois, enfin le samedi. C'est un challenge pour les femmes, avec différents clubs universitaires.
Bah, Vanessa, elle prendra son micro.
Voilà, donc j'espère que vous allez nous accompagner sur cette belle opération
qui
sera unique. Ça sera à Charletti.
À Charletti,
voilà. Et voilà, ça sera pour la première fois qu'il y aura un événement sportif. Il y a 6 disciplines, mais avec des particularités. Ce n'est pas un règlement officiel de fédération. C'est plutôt sous forme de challenge. Et il y aura des équipes de femmes intergénérationnelles de différents clubs universitaires de toute la France. et qui vont venir. Et j'espère qu'on aura, que ça sera évidemment un bel événement et qu'on pourra partager et avec un petit défi culturel aussi.
Oui, ça c'est
dans,
important.
Dans son dimension, oui, parce que le PUC est inscrit dans, au niveau de l'Olympiade culturelle. Et donc, il y a énormément de soirées art, sport au PUC Social Club qui sont organisées. Il y a aussi des stages, notamment en judo, qui sont organisés avec aussi une activité théâtre. Donc, il y a cette volonté de notre président Bernard Comand de développer aussi l'aspect culturel, notamment au sein du Paris Université Club.
Alors, dernière petite question. Est-ce qu'on accompagne, est-ce qu'on aide les judokas dans la fédé de judo? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui sont parfois confrontés un petit peu à eux-mêmes, qui n'ont pas beaucoup d'aide de leur fédération. Ce n'est pas le cas pour le judo, aussi bien au niveau des études que pour le reste.
Oui, alors les judokas,
que le travail, par exemple.
Les judokas qui sont inscrits sur les listes officielles et qui sont bien placés au niveau international, oui, ils sont aidés. C'est-à-dire qu'il y a...
C'est un problème pour le sport de haut niveau actuellement.
Oui, bien sûr. Ah, oui. Après, c'est surtout ceux qui n'ont pas encore percé, où parfois c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que, notamment au niveau des ressources personnelles. Nous, par exemple, on a Perrine Saint-Étienne qui a fait un podium au championnat de France de judo, qui intervient, nous, autant en qualité de professeur de judo au sein de nos jeunes. Et c'est un moyen aussi pour elle d'avoir à la fois de pouvoir exprimer, de transmettre sa passion et aussi d'avoir une rémunération et de mener de front un peu à la fois la performance, à la fois la formation et puis d'avoir un petit peu plus d'argent pour son quotidien.
Très bien, Véronique, merci. Ça a été un immense plaisir. À très bientôt, vous reviendrez avec le président du PUC. Hein,
voilà, bien
pour
sûr.
Pour cette émission très dense et très variée, vous avez vu encore aujourd'hui.
Et on se retrouvera au mois de mai pour le challenge féminin
avec grand plaisir.
Paris Université Club.
Merci en tout cas, puis cette émission elle sera réécoutée donc demain de 10h à 11h30 et puis elle sera naturellement en podcast et surtout les réseaux sociaux dans les prochaines heures. Merci à Jason et puis Léonard, notre duo d'attaque. Hein, et puis on vous laisse maintenant pour Au bout du foot avec LHJ ce soir. Aux manettes. Bonne soirée à toutes et à tous et rendez-vous la semaine prochaine. On finit avec Dalida, Parole, Parole. Allez, bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus.
Rien que des mots.
Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
De toujours, ma seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi.
Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbon et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche. Mais jamais sur mon cœur.
Une parole encore.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, 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 parole. Parole encore des paroles que tu sais.
Espérance.
Rien ne t'arrête quand tu commences.
pour moi, la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes.
Caramel, bonbon et chocolat.
Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Encore un mot, juste une parole.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, 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 parole. Parole, encore des paroles. Que tu sais mon.
Faith.